Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue dans cet épisode 29 du plaisir de partager. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Aujourd'hui, je suis avec Déborah. Bonjour, Déborah Valdeavero. Tu auras droit au prénom et au nom, chanceuse.
J'ai trop de chance. Salut Locan, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci beaucoup. Et toi?
Très très bien, je suis très content d'être ici.
C'est totalement improvisé. On a mangé une grosse côte de bœuf à midi. On s'est dit, tiens, si on faisait un podcast audio ensemble, puisque c'est l'enregistrement du podcast, et que Déborah est très inspirante, vous allez le voir dans cet épisode. Alors, je te laisserai un petit moment juste après pour te présenter. On va d'abord commencer par féliciter et remercier les quelques personnes qui ont joué le jeu et qui sont allées mettre des belles notes sur Apple Podcast et des jolis commentaires. On a PK, Les Rêveries et Anthony sur Apple Podcast. On a également Anthony, encore un, Aurélie, Alex et Gabriel qui sont venus mettre un commentaire sur Spotify. C'est super important de partager ces épisodes de podcast s'ils vous plaisent autour de vous et de venir mettre des étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast. Évidemment, vous en mettez 5, vous êtes paradème. Et sur Spotify, vous pouvez réagir et mettre des commentaires sur l'épisode. Quand sur Apple Podcast, vous allez mettre une note, elle est pour le podcast au global. Quand sur Spotify, vous allez mettre des commentaires, c'est sur l'épisode en particulier. Et ça me permet d'y répondre et d'échanger avec vous, un petit peu comme sur YouTube. On disait donc que nous sommes avec Déborah. Est-ce que c'est ton premier podcast avant qu'on lance la partie présentation?
Non, j'en ai fait quelques-uns, mais c'est toujours un outil que je kiffe. Moi, j'adore ça.
C'est fun le podcast.
Ouais, c'est très
Donc,
fun.
Déborah, c'est ton moment à toi. Est-ce que tu peux te présenter?
Oui, ça, je peux. On va être succincte. Alors moi, du coup, je suis Déborah Valdavero. Je suis la fondatrice d'Impossible n'est pas vous. Et aujourd'hui, ma principale fonction, mais plutôt kiff, c'est d'accompagner les entrepreneurs et les personnes à réaliser leurs objectifs, tout avec une dimension de performance, de bien-être émotionnel et de gros mindset pour réaliser des gros objectifs qui font plaisir. Et à côté de ça, je forme et je mentore les coachs d'aujourd'hui et de demain à mettre un peu du jeu dans le game pour avoir des vrais résultats.
Alors, Déborah, ce qu'elle vous dit pas, c'est qu'on était au collège et lycée ensemble. On a fait le lycée ensemble,
On
on
a
a fait que
fait
le collège.
que le lycée, mon cher. Enfin, fin de... Je crois
Moi,
pas
on
qu'on
était
se...
au collège ensemble, à Pyrénées à Tarbes.
Ah oui,
Big
c'est vrai.
up.
Big up.
Tout a commencé
Ah
à
oui, j'ai
Pyrénées
oublié ça.
Tarbes. Et le lycée, je me souviens pas
T'es
d'avoir
au
fait.
Phil Gauthier?
On a fait Théo. Et bien voilà, Théophile Gauthier, Tarbes, Pouet-Pouet,
Ouais.
Monsieur Quintana à Pyrénées. Et comment il s'appelait?
Ah, je sais pas trop, non.
Andro. Andro, le vice-principal.
C'est
Qui
pas faux.
dansait du tango, qui était pilar de rugby et qui dansait le tango. Bon, tout ça, vous vous en fichez, mais ça vous montre à quel point on se connaît depuis très longtemps avec Déborah et comme quoi les Five Guys sont vachement bien. On s'est recroisés sur un Five Guys il y a quelques années. 2, 3 ans. Enfin, bon, bref, ça, vous vous en fichez globalement. L'idée de ce podcast, c'est de parler ensemble de ce qui fait que des entrepreneurs réussissent. Je suis en train de bloquer parce qu'en fait, sur ma fiche, j'ai l'ancien titre qu'on voulait mettre en place, Perception de valeur, service et leadership, qui n'est donc pas du tout le titre de cet épisode, puisqu'on va expliquer pourquoi est-ce que certains entrepreneurs réussissent, certains ne réussissent pas, avec tes inputs à toi. Et c'est en fait ce que tu fais au quotidien.
Exactement. Et après, j'ai même envie de dire que ça peut apporter des tips à tout le monde, qu'on soit entrepreneur ou pas, au final. Quand on a envie de réaliser des choses et que parfois on sent qu'il y a plein de choses qu'on procrastine, qu'on ne fait pas, etc., c'est des inputs qui peuvent fonctionner à tout niveau de conscience, à tout niveau d'objectif. À partir du moment où on est un être humain, un cerveau, qu'on est câblé, qu'on a des émotions, ça peut vraiment s'appliquer, ça peut vraiment changer énormément de choses.
Trop cool. L'idée là, c'est justement d'avoir des trucs qui sont actionnables comme d'habitude et d'avoir un petit parallèle avec ce que nous on peut mettre au quotidien dans notre réservoir, l'énergie qu'on peut utiliser et la manière qu'on a de percevoir les différentes choses. Donc aujourd'hui, en vrai, moi je fais pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est Déborah qui va gérer un petit peu le podcast. J'ai vite fait un script. J'ai 3 points en fait. On avait deux possibilités au moment où on est parti sur ce podcast, soit de faire un podcast ou un script tout, c'est absolument pas l'idée, je le fais jamais, c'est assez compliqué et ça limite un petit peu la manière dont on va vous présenter des choses. Donc on fribole le truc avec 3 points que tu m'as donné, la gestion des émotions, l'incarnation du leadership et la vision. Puis ensuite on se fera une petite conclusion si Déborah m'a pas fait pleurer d'ici la fin de cet épisode. Mais on va peut-être commencer par la gestion de ses émotions. Comment est-ce que toi tu perçois la gestion de ses émotions pour un entrepreneur? C'est un point qui me parle énormément parce qu'au moment où il faut se lancer, ben il se passe plein de choses entre tes deux oreilles, mais aussi dans ta cage thoracique, ton petit cœur, il te dit, attends, mais t'es sûr que tu vas arrêter de faire ça? T'es sûr que tu vas te lancer sur ça? On doute beaucoup. Le doute, c'est une émotion. En fonction de ce qu'on a connu dans notre enfance, en fonction de ce qu'on a connu dans notre vie professionnelle, en fonction de tout un tas de sujets. comment est-ce que tu briefes les personnes et qu'est-ce que tu as à apporter sur la gestion de ces émotions, la gestion de nos émotions?
Alors, du coup, c'est une vraie question sur la question de l'intelligence émotionnelle. En fait, on va complètement parler aujourd'hui d'intelligence émotionnelle. Il faut savoir qu'il y a deux types d'intelligence. Le QI, bon, ben, classique, à partir d'un certain âge, tu peux plus trop le faire augmenter. Et ton quotient émotionnel, le QE, donc, le fameux, qui celui-ci va évoluer tout au long de ta vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le doute est relié à une émotion, mais que c'est pas vraiment une émotion. C'est plus un ressenti, pour le coup, mental, et qui va se manifester dans le corps. Une émotion, elle passe toujours par trois filtres. Ta pensée, ton ressenti corporel et ton action que tu vas faire ou pas. Donc, les émotions, c'est des vrais indicateurs. On a deux types de profils aujourd'hui. On a les gens qui les accueillent, qui vont les traiter, comprendre le message pour passer à l'action différemment. Et on a les gens qui vont les refouler. Donc, typiquement, on a des gens qui sont en dehors de la conscience émotionnelle. C'est souvent ces gens-là qui vont être en difficulté pour réaliser leurs objectifs. Donc, il est vraiment très important, en fait, de lancer de la conscience émotionnelle. Typiquement, si je prends l'exemple de ton marathon ou de ton ultra-marathon, déjà bravo parce que tout le monde ne peut pas faire ça.
Merci beaucoup, merci.
Je t'en prie, profite, ça a peut-être pas duré, là, les compliments. Mais en vrai, si on prend l'exemple de ton ultra-marathon, c'est que, clairement, tu pars dans un challenge. Sur l'instant, tu as une grosse envie de le faire. Mais je parie qu'au moment où tu t'es rapproché du moment, c'était plus trop l'envie qui était là, quoi. C'était un peu le « Ok, est-ce que je me suis pas un peu gonflé ? Comment ça va se passer ?»
Pourquoi je me suis inscrit à ce truc-là ?
Exactement. Et ce truc-là, en fait, c'est la peur. Et il faut savoir que chaque envie reflète une peur. C'est-à-dire que chaque envie, c'est un truc nouveau qu'on va avoir. Un truc qu'on n'a pas encore fait. Si je me trompe pas, tu l'avais jamais fait, ce truc-là.
Jamais fait d'ultramarathon.
Donc ça te challenge, t'es dans ton envie, mais au moment où tu vas te passer à l'action, bah là, la peur, elle se pointe, elle dit qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais me péter, enfin j'en sais rien. D'ailleurs, ça serait intéressant de nous partager qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là, qu'est-ce que je fous là, mais c'était quoi les pensées associées.
En vrai, c'est plus une question de doute, de ok, j'ai jamais fait, comme la première fois que tu fais ton marathon, en fait, la première fois que tu fais une épreuve que tu n'as jamais fait d'un point de vue sportif et qui est totalement inconnue. On n'a pas parlé non plus, mais toi, tu as fait énormément de basket à très haut niveau. Le sujet là, c'est moi, je suis pas coureur, j'ai jamais couru. J'ai découvert ça avec le Covid, un petit peu comme tout le monde, et, sauf que j'ai décidé de continuer après parce que je suis un peu bohème. Mais la partie marathon, ultra-marathon, le premier marathon, tu flippes. Le premier ultra-marathon, ben, tu flippes autant parce que tu sais pas. C'est deux fois le truc qui te faisait peur il y a à peine 18 mois. Donc, c'est juste une peur d'inconnu, de pas savoir ce qu'il y a. La partie alimentaire, ça va. Moi, c'était plus une peur de est-ce que je vais me péter. Parce que j'étais blessé au moment où j'ai fait ma prépa pour l'ultramarathon et blessé évidemment pour prendre le départ du marathon. Donc à quel point est-ce que je vais avoir mal et est-ce que je vais avoir un mental suffisamment fort pour pouvoir pousser malgré la douleur sur cet ultramarathon. Voilà.
Ben, c'est très intéressant parce que du coup tu projettes, là on est la peur en fait c'est la projection parce que justement tu l'as dit, tu es dans ta zone d'inconnu. Et ben, c'est le même principe quand tu te lances dans un projet. Tu as envie, mais tu ne sais pas exactement, ton cerveau ne contrôle absolument pas les paramètres. Donc, c'est là où le step 2, c'est la confiance en soi. Il y a 18 mois, tu n'avais pas la même confiance en toi. Comme tu l'as déjà fait une fois, tu peux te dire que c'est possible, mais tu ne sais pas encore vraiment si c'est possible. Mais la peur, elle est là pour te dire, ok, mec, fais attention. À tout moment, il vaut mieux que tu restes dans ta zone de confort, mais c'est une peur complètement archaïque. Donc, ce qui est intéressant, c'est de repérer sa peur, d'accepter qu'on a peur et de se dire, je le fais quand même. Et le pont qu'il y a entre « j'ai peur, mais je le fais quand même », c'est le pont du courage, typiquement.
Ok. Entre les deux, moi, il y a une phase qui se passe, c'est de la rationalisation de l'objectif, en fait. C'est-à-dire que j'essaye, très pragmatique comme garçon et très rationnel aussi, donc j'essaye toujours j'ai un petit tableau Excel qui se fait automatiquement dans ma tête, tu sais. Ouais. Donc, à partir du moment où j'ai peur de faire mon ultramarathon, je me dis ok, est-ce que cette peur elle est rationnelle, c'est la peur de quoi, quels sont les risques associés avec ça, est-ce que si je me pète, quel est le niveau de pétage entre guillemets que je peux avoir, à quel point c'est grave, est-ce que j'ai raison d'avoir peur, je reboucle au début, non, ok, j'efface la ligne et je continue. Et c'est comme ça que par exemple sur la partie alimentation, tu vois, c'est un truc que j'ai rayé très vite dans mon tableau Excel parce que ben, je sais m'alimenter sur un marathon, je sais m'alimenter de manière générale. C'est un de mes points forts dans la préparation sportive et dans l'activité sportive de manière générale. Donc là, c'est deux fois un marathon. Bon, ben, je prendrai le double et un peu plus. Il n'y a pas de sujet.
Exactement. Du coup, tu donnes la réponse typique. C'est que quand les gens qui ont peur n'osent pas, c'est parce qu'ils manquent de compétences. Tu sais t'alimenter. Donc, si tu sais t'alimenter, en fait, la question de l'alimentation n'est pas un problème. Voilà. Tant que tu ne sais pas le faire, que tu ne l'as pas fait, C'est
la peur de l'inconnu, en réalité.
Exactement. Et la peur de l'inconnu, c'est toujours pareil. C'est la même partie du cerveau, c'est-à-dire, attention, c'est la minute neuro. C'est là. c'est mon prof de bio. Vous entendez, il serait très fier de moi. Parce qu'il ne savait pas ce que j'allais faire à l'époque. Hein. Mais là, maintenant, on a bien repéré. C'est ta partie du cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien, qui n'a pas évolué depuis qu'on est des hommes de Cro-Magnon. Et cette partie-là, elle s'active au moment où tu vas faire quelque chose de nouveau. Cette partie-là, elle était très utile à l'époque où on vivait dans les grottes et on avait peur de se faire bouffer dans les dinos quand on sortait, tu vois. Et ça, aujourd'hui, elle est toujours restée intacte dans notre tête. Donc, cette partie-là, elle vient dire « warning », on n'a jamais été aussi loin de la caverne. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent de zone de confort qui revient régulièrement. Le cycle, c'est zone de confort, zone d'inconfort quand tu sors, zone, à ce moment-là, de connaissance, puisque tu commences à travailler sur tes compétences que tu n'as pas. Et après, du coup, tu passes en zone d'exploration. C'est OK, tu kiffes. Et puis, rapidement, en fait, ta zone d'exploration devient ta zone de confort.
OK. Donc, tu étends tes zones petit à petit en fonction des challenges que tu te mets toi-même.
Exactement. Le but, c'est de faire comme l'élastique de temps en temps. Bon, mais tu reviens un peu, mais dans tous les cas, tu sais que l'élastique, il va falloir le péter. Parce que si tu ne pètes pas l'élastique, il te ramène toujours dans ta zone de confort initiale. Et la peur, elle est là pour te dire « je suis l'élastique ». C'est normal. Maintenant, tu as un choix. Tu le fais ou tu le fais pas. Donc, ça passe par les compétences.
Et donc, sur cette partie-là de gestion des émotions d'un entrepreneur, la partie peur, comment est-ce que tu vas le transposer sur un entrepreneur, de manière générale, quelqu'un qui veut se lancer pour faire quelque chose? Un entrepreneur, c'est un grand mot aujourd'hui. Ça fait un petit peu...
Ouais.
C'est à la fois tendance et ça fait à la fois un petit peu peur. C'est-à-dire qu'on voit, toi, moi, tous ceux qui nous écoutent, énormément de contenu sur les réseaux de personnes qui sont entrepreneurs parce qu'ils se sont lancés, juste en fait ils ont monté une micro-entreprise et c'est 3 clics sur internet. C'est ok de faire ça, mais à un moment il ne faut pas trop en faire non plus, hein. Faut quand même garder les pieds sur terre et arrêter de surjouer les choses. Le sujet, c'est de se lancer dans quelque chose de nouveau. On revient sur cette zone d'inconfort. Donc, dans ce podcast, on évoquait précédemment le fait de simplement prendre un dossard pour une course. Sur la partie formation, motivation, etc. L'idée, c'est vous ne faites pas du tout de sport, ok, mais mettez-vous un challenge dans 3 mois de faire un 5 km. Prenez un dossard pour un 5 km. On n'est pas obligé de le faire en courant, on n'est pas obligé de le faire vite, on n'est pas obligé de le faire en super bon état. On prend juste un dossard pour un 5K et on a un truc pour faire un 5K, même si c'est en marchant, on a pris un dossard, on a participé à un événement avec des gens. Et donc, on enlève déjà la partie surprise de comment est-ce que je vais me comporter avec les gens? Est-ce qu'on va me juger ou pas? Parce qu'au début, c'est un petit peu la question qu'on se pose.
Pas du jugement.
On a peur de l'image qu'on va renvoyer et comment les autres vont l'interpréter et nous la renvoyer ensuite dans la face. On voit qu'en fait, tout le monde s'en fout parce que chacun est là pour faire sa propre course.
Complet.
Les gens s'en fichent. Donc, il faut y aller. Et puis, si on a déjà fait un 5K ou si on court un 5K, ben, let's go pour un 10. Et puis, peut-être après un semi. Et puis, et petit à petit, comme ça, on part. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller faire des marathons. Je dis juste que le process de venir tester des trucs nouveaux qui sortent de la zone de confort, c'est intéressant. Et le parallèle entre le sport et l'entrepreneuriat, entrepreneuriat, ça veut juste dire entreprendre un truc, tester un nouveau truc, faire un nouveau truc, que ça soit une activité professionnelle parce que vous voulez vous mettre à la couture ou faire des macramés. Ce mot me fait beaucoup trop marrer à chaque fois.
Je ne sais même pas comment on l'écrit, mais vas-y.
Je n'en ai aucune idée non plus. Vous l'écrirez dans les commentaires sur Spotify, votre expression de macramé. Mais peu importe ce que tu veux faire et le tenter, de juste le montrer à tout le monde, mais il y aura cette partie de peur à un moment et c'est OK. Et comme tu disais, il y a les personnes qui vont savoir gérer ça et essayer de le comprendre et les personnes qui vont juste refouler. C'est ça l'alternative? C'est
exactement.
Soit je le comprends, soit je le refoule.
Si tu refoules ta peur, en fait, tu ne pourras pas dépasser ça. Elle reviendra à un moment donné te toquer. Donc souvent, les gens qui refoulent leur peur passent dans des situations d'hyper-contrôle. Et là, spoiler alert, ça marche. Dans ton entrepreneuriat, dans tes relations de couple, dans tes relations familiales, avec tes potos, dans ce que tu veux faire, et donc ce qu'on appelle un peu les côtés psychorigides, oui, il faut tout être calé, telle heure, machin. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que si tu refoules tes peurs, elles vont revenir te toquer ou elles vont te rendre la vie impossible. Il faut toujours développer des capacités d'adaptation. Et ça, de moins en moins, en fait, on l'a. Au départ, je rappelle, on sortait de la grotte, on allait, on était des chasseurs-cueilleurs, tu vois, on marchait, on s'adaptait, peu importe ce qu'on trouvait. Maintenant, avec l'automatisation, l'immédiateté, Insta et compagnie, on a tout de suite. Donc, on a moins besoin de s'adapter. Et donc, quand on va entreprendre, cet inconfort qu'on va ressentir, qu'on reçoit de beaucoup, de moins en moins, en fait, dans notre vie, il vient nous submerger. C'est plus naturel pour nous de ressentir ça. Donc, il y a déjà ces premiers indicateurs corporels qu'il va falloir chercher. Donc, ceux qui se cachent derrière leur peur vont soit ne jamais passer à l'action, c'est dommage. Ceux qui se cachent aussi derrière leur peur vont peut-être vouloir être dans l'hyper-contrôle. Et c'est là où on va rentrer dans des notions d'échec, parce que tu ne peux pas tout contrôler. Donc les gens vont dire « Ah, j'ai échoué », mais c'est normal, tu as vu le cahier des charges. Personne fait un perfect, en fait, au final. Et ce qui est important là, c'est de comprendre que si tu n'es pas drivé par tes envies, mais que tu es toujours drivé par tes peurs, tu ne le feras jamais, en fait. Parce que l'envie doit être plus forte que ta peur.
Ça me fait penser à une Casey Neistat. Je ne sais pas si c'est un mec que tu connais en vidéo. Peut-être pas. Et non. Du coup, il va falloir que je te montre avec, dès qu'on aura terminé cet enregistrement, les vidéos de Casey Neistat, qui est un mec incroyable, qui pour moi a inventé le vlog et la vidéo moderne sur YouTube. Et ce gars a un slogan qui est juste génial, qui est très simple aussi, « Keep uploading ». Et en fait, le sujet, c'est juste ça. C'est peu importe ce que tu fais, partage-le, envoie-le et recommence. Et en fait, n'arrête jamais le process, mais à un moment, il faut y aller et on se fiche de la qualité du premier produit. Allez voir mes premières vidéos ou allez voir juste les vidéos de l'an dernier. Elles sont dégueu, en fait, par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Mais pour autant, c'est un truc qui me fait ressentir de la nostalgie. Par moments, j'ai un petit peu honte aussi. Je me dis, ah, quand même, t'envoyais ça en ligne. Ouais, mais parce qu'en fait, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est le message qui passe. Et ça n'empêche pas que les gens soient là aujourd'hui parce qu'ils ont découvert ces vidéos à l'époque. Donc, elles n'étaient peut-être pas si nazes que ça, rétrospectivement. Et le sujet, c'est ça, c'est que à un moment, il faut y aller, en fait. Donc, je rebondis sur le truc de la caverne. Soit tu restes effectivement dans ta caverne tout le temps et tu ne fais rien, soit tu tentes des choses et ça peut être des trucs à qualifier de simples pour des gens normaux. Mais encore une fois, que ça soit juste se dire « Allez, maintenant, je vais aller marcher » ou « je m'impose », entre guillemets, ou « je me motive à faire X milliers de pas par jour et peu importe ce qui se passe, je vais faire X milliers de pas ». Un parallèle qui est fun, on a tous les deux des Apple Watch. Les cercles de l'Apple Watch, c'est un super bon cahier des charges de se dire tous les jours, peu importe ce qui se passe dans ma journée, je complète mes 3 fucking cercles.
Il faut choisir ces cercles.
Et en fait, ça, c'est une forme de gestion aussi, entre guillemets, des émotions et de tout ça, parce que peu importe ce qui se passe, à partir du moment où tu t'es dit, et c'est un engagement avec toi-même, tu vois, donc tu n'as même pas à dire aux autres personnes, regardez, je prends un dossard et je fais un 5K, si tu le fais pour le montrer aux autres, je pense que déjà tu te trompes, mais si tu le fais pour te le prouver à toi-même que tu as une capacité d'y arriver, viens pendant une semaine, je complète mes cercles tous les jours sur l'Apple Watch. J'ai réussi à faire tous les jours, ok, j'essaye de faire une semaine de plus. Allez. Et j'ai loupé aujourd'hui, bon c'est pas grave, allez je recommence la semaine prochaine, je m'autorise, j'ai droit à avoir un jour l'empathie, en fait c'est un truc qui est super cool, tu vois, tu parles d'émotion,
ouais.
Moi un truc qui m'a changé, je pars un peu sur un monologue, mais un truc qui m'a changé sur ma gestion de gérer un business, alors c'est toujours dur à verbaliser pour moi de gérer un business alors que ça fait 18 ans, 19 ans que je fais ça, parce que ça fait un business depuis un an juste, mais c'est le côté d'être empathique avec moi-même, je suis très dur, très exigeant sur tout ce que je fais et avec les personnes qui m'entourent aussi, et de savoir faire preuve d'empathie avec le ok, aujourd'hui je suis fatigué, et ben en fait c'est ok d'être fatigué, arrête de vouloir forcer à faire des trucs, repose-toi et demain t'en remets un grand coup, mais aujourd'hui ok, cette journée on la met de côté, elle compte pas, on appuie sur pause, tu te remets en état, tu penses à toi, santé, etc., et demain on attaque.
C'est complètement ça, en fait. C'est des nouvelles habitudes. La question de l'habitude, elle est très importante. Et la gestion des émotions, c'est en soi, juste ça, ne va pas te permettre de pouvoir réaliser tes objectifs, que ce soit dans ton entreprise ou dans ta vie de tous les jours. La gestion des émotions, elle va te permettre un truc, ce que t'expliques extrêmement bien avec l'histoire des 3 cercles, c'est la discipline. Parce que tu sais gérer tes émotions, ton état émotionnel va paraître plus stable. En bonne hypersensible que je suis, et j'accompagne des personnes multipotentielles, et toi, moi, on sait de quoi il est question, on peut avoir une stabilité émotionnelle à partir du moment où on comprend nos émotions. Et donc, cette stabilité-là émotionnelle nous permet d'avoir de la discipline. Et cette discipline nous permet d'avoir des résultats. Et quand on prend un chasuble, comme tu l'as fait, on trace une voie. Et c'est la question là où on bascule vers la question du leadership. Incarner un leadership, mais en fait, c'est typiquement ce que tu vas pouvoir faire quand tu vas tracer ta voie. Et pour ça, il faut faire un truc simple, c'est dépasser la peur du jugement. Le leader, il s'en cogne de savoir ce qu'on pense de lui. Le leader, même s'il n'a qu'une personne qui le suit, il est leader. Et c'est pas une histoire d'ego. Moi, je fais mieux, je te montre, je m'étale, machin truc. Ma grand-mère disait tout le temps, la confiture, moins t'en as, plus tu l'étales. C'est pareil avec la question de l'ego, tu vois. Moins t'en as, moins t'as confiance en toi, plus tu vas étaler ça. Et c'est pas le projet, ça inspire pas. On est tous leaders, on a tous ce potentiel-là en nous. Mais si on se cache derrière nos émotions, on peut pas l'incarner. Donc, quand tu fais un truc, c'est par envie de montrer que c'est possible. Toi, tu montres impossible. Moi, impossible n'est pas à vous. Je n'ai pas été chercher bien loin. Mais c'est parce que moi, j'ai grandi avec un père qui disait tout le temps, « Mais ça, Déborah, c'est impossible !» Et à chaque fois, je me disais, « Ah ouais ?» Et là, aujourd'hui, je le décris précisément. Le possible, c'est ce que tu vas mettre en valeur pour montrer une voie. Le reste, on s'en fout. Si tu as une personne qui te suit, tu es un leader. Si par contre, tu passes ton temps à regarder, à te comparer à l'autre, « Ouais, mais lui, il a ça. Ouais, mais combien de fois on est sur Internet, on, des fois, on se fait déboîter. Ouais, nanana, toi, t'as pris du télé-shopping. J'adore, je voulais la placer. Moi, j'ai pris, ouais, t'es un gourou, machin, meuf et tout. Ben, peut-être. Peut-être que tu me vois comme un gourou. Peut-être que t'as raison. En fait, moi, ton avis, je m'en cogne. Parce que quand je regarde ce que t'as, je me dis pas je suis mieux que toi. Je me dis juste, tu n'as rien fait qui m'inspire. Donc, ça ne veut pas dire que tu es moins bien ou que je suis mieux. Ça veut juste dire que là, aujourd'hui, avec ce qui vibre chez moi, ça ne m'inspire pas ce que tu proposes. Donc, ton avis, c'est ton avis. Mais les gens qui passent à te critiquer, c'est là où c'est intéressant d'en faire du fuel. Parce que moi, ça fait du fuel. Moi, je dis, OK, vas-y, continue, ça me propulse. Donc, il faut vraiment voir l'autre comme un mécanisme de comparaison, mais positif, pour pouvoir incarner son leadership. Donc, si on a peur d'être jugé par des gens qui ne font rien de leur journée, Jean-Michel du 69 qui poste un vieux truc chelou parce que ouais, machin, voilà. Ben, les gens, clairement, il n'a pas passé la première étape de l'intelligence émotionnelle. On ne peut pas perdre notre énergie avec ça. On en fait du fuel et on avance vers le leadership.
C'est super fort ce que tu dis. Et le truc qui me fait marrer, c'est le rapport à l'impossible ou à la difficulté, toujours. On a deux slogans qui se recoupent assez fort. Impossible n'est pas vous et difficile n'est pas impossible. C'est juste moins évident que facile. C'était le slogan qu'on avait mis en place pour la traversée des États-Unis en 2011 et qui a donné lieu à une quantité de bashing absolument incroyable, évidemment aussi. Mais on a toujours ce rapport à l'impossible, à la difficulté, etc. Et en fait, encore une fois, il y a très peu de choses qui sont impossibles. Il y a beaucoup de choses qui sont très compliquées, sans aucun sujet. Mais avec un plan d'action, entre guillemets, on arrive à avancer avec des tentatives, avec... Et encore une fois, si on ne fait rien, il ne se passera rien. Je ne sais plus dans quoi c'est ça. Si on ne se fait rien, il ne se passera rien. Ça doit être dans un Disney ou un truc comme ça. Ça ne parle pas.
Possible. Je ne sais pas. Moi, j'ai en tête Silencio Bruno. C'est peut-être ça. Tu vois, le côté Luca, là, j'en sais rien. Je fais de la pub pour Disney. Mais en vrai, je pense que quand quelqu'un dit c'est impossible, il ne faut pas oublier, on ne parle pas de toi. Quand quelqu'un te dit X, ce que tu veux dire là, c'est impossible. N'oubliez pas que les gens, en fait, ils parlent de leur impossible qu'ils projettent sur vous. Et avec les peurs, c'est pareil, ça se projette sur vous. Oh, mais Locan, tu vas pas avoir peur de te péter, t'es pas un peu fou, tu vois. Et en fait, ça, si t'es pas gaulé avec tes propres émotions, ben, c'est pareil dans l'entrepreneuriat. On a personne vraiment qui nous a propulsé. Tout le monde m'a dit, moi, je me suis lancé en plein Covid, éducatrice spécialisée pendant 15 ans, j'arrive, je débarque, sportive semi-pro, et on me dit, écoute, t'es pas un peu folle, là, de te lancer pendant le Covid, etc. J'ai jamais aussi bien gagné ma vie. Aujourd'hui, je génère les chiffres que j'ai. Mais les peurs des autres, elles sont arrivées. Et si tu gères pas tes peurs, elles te percutent. Donc, quand t'entreprends quelque chose, partage ton rêve, ton envie, ton ambition avec des gens qui vont savoir canaliser leurs propres peurs. Sinon, reste dans ton coin, fais ton taf, réalise-toi. Moi, c'est ce que j'ai fait. Au bout d'un moment, j'ai dit à mes parents, en fait, je vais pas repartir éduque. Ça fait déjà 5 mois que j'ai démissionné et j'ai vu très bien mon activité. Ça a évité toutes les inquiétudes que, par exemple, ma famille pouvait avoir par rapport à ça.
C'est un bon sujet, ça, la partie projection des peurs des autres personnes. Ça rejoint un truc sur... J'ai l'impression que je suis le mec qui fait des... Ça rejoint dans ce podcast. Alors, j'ai regardé sur Google, j'ai pas trouvé le « Si tu fais rien, il se passera rien ». Pourtant, je suis persuadé que c'est un truc, entre guillemets, connu. On cherchera peut-être un petit peu plus tard. Mais la partie projection des peurs, c'est... Quand j'avais fait de la thérapie, au début, un des premiers trucs qui m'a frappé, c'est le « Pour être bien à deux, il faut être bien tout seul ». Et en fait, c'est un petit peu la même chose là, c'est-à-dire que si tu veux être en capacité de pouvoir avancer, en rejoignant la partie précédente sur les émotions, si tu veux entreprendre, ben, il faut déjà savoir te sentir bien, toi, avec ta propre idée d'entreprendre, avant de pouvoir l'afficher à tout le monde, avant de pouvoir avancer, etc.
Ouais, complètement. J'ai envie de te dire, c'est que tu passes, quand tu sais gérer tes émotions, tu passes de l'état liquide à l'état solide. littéralement.
Bah, c'est mignon,
c'est
ça.
Beau, hein.
Mais oui.
Mais en vrai, c'est
Sheldon ça. Cooper, sort de ce corps, s'il te plaît.
Allez. Mais en vrai, si tu passes de l'état liquide où tes émotions, elles te rendent liquide, les gens qui disent je ressens trop, j'y arrive pas, ceci, cela. En fait, quand tu gères ça, tu passes à l'état solide, on peut pas te démonter. En tout cas, on te démonte pas facilement, quoi.
C'est un des sujets sur la prépa de l'ultra-marathon. Tu vois, il y a quelques trucs qui m'ont vraiment, j'allais dire marqué, percuté, c'est pas les bons termes, mais impacté plutôt. Alors, une petite fraction de seconde, encore quelques secondes, parce qu'après tu te dis, bon, ok, stop, laisse ça de côté et concentre-toi sur le positif. Mais sur Insta, je crois, j'avais partagé un post en disant, bon, on part à tel endroit, on va faire l'ultra-marathon, ou c'était une vidéo, ou j'en sais rien. Il y avait une publication, quelle qu'elle soit, et le message était, envoyez-nous vos bonnes ondes, etc. On part là-bas. C'était quand je parlais de l'alimentation, justement, tout ce que j'avais prévu pour la course. Et j'adore parce qu'il y a à chaque fois Jean-Michel du 69, comme tu dis, qui débarque et qui te dit non, mais t'as pas assez de préparation, tu vas te faire mal. Merci pour les bonnes ondes, Jean-Michel, ça fait vraiment du bien, c'est trop cool. Et comme tu es un expert en biomécanique, ça me rassure que tu puisses me donner des conseils pertinents là-dessus. Donc, il y a toujours des gens qui vont arriver sur ces trucs-là, il y a toujours des gens qui vont te dire « Oui, mais entre les deux marathons, tu devrais manger du solide. » Oui, mais si tu lis bien, je t'ai dit que c'était ce que j'allais manger pendant les marathons. Évidemment, je vais manger autre chose après. Et quand bien même, il y a des manières de dire les choses. Tu vois, moi, sur ce podcast et de manière générale, j'essaye de faire comprendre aux gens que c'est important la manière dont on présente les choses. Sur la partie communication non violente, intelligence émotionnelle, etc., c'est super important la manière dont on présente les choses. Au lieu de dire « je suis pas d'accord avec toi », est-ce que tu as considéré le fait que peut-être ça pouvait être autre chose, etc., sans faire autant de ronds de jambes peut-être. Mais ouvrir une porte plutôt que d'enfoncer celle que le mec en face a construit, c'est quand même vachement plus sympa.
C'est plus sympa, ouais.
Et c'est moins destructif, quoi.
Exactement.
Donc, sur ces points-là, effectivement, on a le fait d'être à l'aise avec ses propres émotions pour pouvoir avancer, le fait de ne pas se laisser enterrer par les autres. Les personnes fortes tirent les autres vers le haut au lieu de s'appuyer dessus. C'est un, on en parlait à midi, encore une fois, la version anglaise est beaucoup plus fun, mais évidemment, c'est un sujet. Et de la bienveillance, juste de la bienveillance. S'il y a un truc qui ne te plaît pas, bah, laisse tomber, en fait. Tu vois.
Mais bien sûr.
Si quelqu'un entreprend, quand toi t'entreprends, quand moi j'entreprends, quand ceux qui nous écoutent entreprennent ou ont envie de tenter un truc, juste allez-y, foncez, et que les gens autour soient... Si tu ne comprends pas, en fait, juste laisse filer, et puis ensuite, on en reparle. Mais...
Ouais, puis moi, j'ai envie de dire, là, c'est le côté un peu punchy là, de mon identité de coach.
Allez, c'est parti, on y arrive.
Il y va. Qu'est-ce qui justifie que la vie de l'autre, il est plus important que le tien? Qu'est-ce qui justifie que Jean-Michel du 69 sur son canapé en slibar, eh ben lui, en fait, il a plus de pouvoir pour t'atteindre dans la réalisation de tes rêves.
Totalement.
Ça, c'est pas possible, en fait. Et après, moi, j'arrivais pas à m'arrêter à ça. Ça veut dire, ça venait révéler chez moi une blessure d'injustice tellement grande que ça me faisait décabler et que moi-même, je pouvais parfois m'auto-saboter en me disant, ouais, ils vont penser quoi, ils vont ceci, ils vont cela. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à faire parce que je sais que j'ai plus besoin de prouver. Moi, mon but, c'est de guider, d'aider les gens à réaliser leur vision. Et donc, dans ces dynamiques-là, j'ai quand même voulu comprendre pourquoi. Pourquoi il y a des Jean-Michel du 69 et pourquoi il y a des gens comme nous, tu vois. Et les gens comme nous, ou les Jean-Michel, tout le monde, on a besoin de tout, hein. On a besoin de followers et de leaders, c'est pas un problème. Mais les gens, en fait, qui viennent essayer de bousiller le « ouais, t'as pas marre de vous faire des compotes, tu vas te faire éclater », il y a deux types. J'adore, moi j'ai vu les stories avec les compotes et les machins, je me suis dit « punaise, moi je fais mes 10 000 pas et je bataille, et lui il bouffe des compotes à 18 grammes de sucre pour… » Bref.
Ah, il fait 45 bornes.
Il fait 45 bornes, il est fou. Mais du coup, ben, en fait, il y a deux types de fonctionnement, encore une fois. La jalousie. C'est-à-dire qu'il va y avoir les gens qui vont dire « Oh putain, c'est pas juste, nanana, nanana » parce qu'on est tellement bloqué dans nos émotions pourries et dans notre pensée pourrie que dès qu'on voit quelqu'un qui réalise un truc qu'on aurait eu envie de faire, ben vas-y, que c'est facile maintenant, les réseaux sociaux, je te mets un pavé, je te déboîte. Je pense que j'ai le pouvoir de te déboîter parce qu'en réalité, je ne te déboîte pas, je déverse juste ma frustration en espérant que t'en prennes un petit peu parce que ma merde, j'arrive pas à m'en séparer. Je suis très vulgaire. Et dans un second temps, tu as soit des gens qui sont vraiment préoccupés et qui sont très anxieux et qui donc veulent que tu aies le meilleur. Et il faut différencier les deux. Et la bienveillance, elle est là-dedans. Tu peux être bienveillant et balancer quelque part en disant « vas-y, fais attention, etc. » Comme moi, le lendemain, quand je t'ai envoyé un petit podcast en te disant « j'espère que tu sens chaque fibre musculaire de ton corps » parce que je me doutais que tu allais avancer un petit peu en mode coin-coin sans articulation. Là, il y a un truc qui est vraiment bienveillant où je me suis dit, mais comment le mec, il enchaîne autant de bornes en dormant 3 heures? Et donc ça, c'est bienveillant. Il y a une micro-peur peut-être, tu vois, qui est la mienne, parce que je ne sais pas ce que ça fait concrètement. Comme c'est l'inconnu pour moi de courir un marathon ou de courir, moi, s'il n'y a pas de ballon, je ne cours pas. Donc, de base, de courir un marathon ou 2 marathons, tu vois, j'ai l'inconnu. Donc, je me dis, waouh, est-ce qu'il a pas mal quelque part? Est-ce qu'il s'est pas fait, voilà. Donc, ça, c'est du bienveillant. Mais je suis pas en train de te dire, surtout ne le fais pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on a des peurs vers des gens, si c'est par envie, ben putain, sors-toi les doigts et vas-y, prouve que tu peux le faire parce que tu mérites. Mais si c'est par bienveillance avec des gens autour de nous, on a aussi ce rôle-là de pas projeter ses peurs. Je t'ai pas dit, putain, non, le fais pas, t'es malade. Je t'ai dit, franchement, moi, j'ai hâte de voir et vas-y, lâche rien. Et après, ça va, t'as pas eu mal, comment tu te sens, etc. Donc, c'est vraiment important aussi pour le bien-être des uns et des autres. Et c'est aussi ça, être un leader. Gérer ses peurs.
Trop fort. Je sais pas trop comment enchaîner avec le point qu'on a vu après, et ça va être bien parce qu'on va en faire avoir un podcast qui dépasse un petit peu les 20-25 minutes. On a 31 minutes, la trentaine de minutes de bonheur,
Oui.
et j'aurai pas de cut à faire parce que quand je suis tout seul, j'ai plein de montage à faire dans ce
Je
podcast
comprends.
et c'est chiant. Et là, en fait, c'est trop bien parce que je peux déglutir tranquillement pendant que tu parles, tu peux boire tranquillement pendant que je parle et c'est très cool.
Exact.
Le troisième point. Puisque le titre de ce podcast sera à base de trois pouet-pouet, mots-clés entrepreneurs, quelque chose comme ça, c'est la vision. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la vision qu'un entrepreneur, qu'une personne doit avoir pour avancer sur sa mission d'entrepreneur?
Ben moi, je vais envoyer la question Doliprane. C'est en général là qu'il faut prendre le Doliprane, soit avant, soit juste après. Merci, je vais faire un sponsor. En fait, la question, elle est simple. Toi, Lucan, est-ce que tu as besoin de le voir pour le croire ou d'y croire pour le voir?
D'y croire pour le voir.
D'accord. Donc, si tu y crois, tu visualises.
Ouais.
Donc, ça veut dire que tu crois en quoi? Je te coach un peu là.
Mais je pense que les gens sont un petit peu là pour ça. Alors, ouais, j'allais repartir sur mon mécanisme de défense, tu vois, c'est de partir dans l'humour. Donc, je vais dire, oui, regardez, elle me tape dessus, pouet, pouet.
On a
Bon,
coupé.
répondons à la question. Je dirais que ta question, c'était?
Tu as besoin d'y croire pour le voir, tu m'as
Oui,
dit.
oui.
Ok. Donc, toi, tu as besoin d'y croire pour visualiser et
De
le faire.
croire en moi, du coup, à
De
mes
croire.
capacités.
Exactement. D'accord, c'est ce que je te disais. En fait, si est-ce que quelqu'un comme toi, le même être humain, bon, on a assez d'un, hein, mais si le même être humain.
Quelle saleté!
Ah oui, c'est beau l'amour. Si le même être humain que toi lit les mêmes livres que toi, est-ce qu'il va faire la même perf que toi? La réponse est clairement non.
Ça m'a fait mal quand tu m'as dit ça l'autre
Mais
jour.
c'est vrai, parce qu'en fait, là, quand tu fais ça, tu gommes un petit peu ta valeur ajoutée. Et moi, mon but, c'est de te dire, oh, arrête de gommer ta valeur ajoutée, bim, mets-leur dans la face, ça va les motiver. Et donc, ça, cette valeur-là, il faut la mettre en place, c'est-à-dire que tu crois en toi et ça crée ta vision. Donc, ça, c'est cool parce que ça te permet d'avoir un passage à l'action qui est hyper efficace. Donc, ta vision, elle dépend au final de ta confiance en toi. On est d'accord?
Ouais, je suis
Très
d'accord
bien.
totalement.
Moi, j'ai l'inverse. Moi, j'ai confiance en moi, mais ma vision, elle dépend de ce que je vois. C'est-à-dire, moi, je me visualise vivre la moitié de l'année aux États-Unis. Et du coup, je me dis, quelles sont les compétences qui me manquent? Quelles sont les choses qui me manquent dans ma confiance pour continuer à propulser ce projet-là?
OK.
Ce qui fait qu'on va parler de vision à moyen terme ou à long terme. Quand tu lances un business, au début, tu dis, est-ce que ça marche? C'est la vision court terme. Okay?
Totalement, ouais.
Quand tu vois que ça marche depuis quelque temps, tu dis, OK, comment ça peut mieux marcher? Et après, tu te poses la question de pourquoi tu le fais. Et ton pourquoi, ce qu'on appelle le why, typiquement, c'est vraiment la raison qui fait que tous les jours, tu vas aller te casser le dos à aller chercher des infos, à aller chercher de la compétence, à aller chercher du client, à aller chercher de la performance. Et ça, ce pourquoi-là, il doit te porter. Mais il est relié à ta vision. Est-ce que c'est la vie sur la côte ouest qui est cool? Est-ce que, en fait, cette vision-là, elle doit te nourrir? Donc, comment tu nourris ta vision? Ben, soit tu crois très fort en toi et tu te dis que peu importe ce qui se passe, tu le feras et ça vient de l'envie. Soit tu visualises quelque chose et tu le ressens. Ça, c'est plus pour les personnes qui sont très intuitives. Ou là, je vais visualiser de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Hop là. Et donc, on passe plus par la vision de moi réalisant ceci ou cela.
Ok.
Voilà. Et donc, il y a 2 types de fonctionnement. Moi, je suis plutôt la team. Je le vois, puis j'y crois. Toi, tu y crois, puis tu le vois. Il n'y a pas un mieux que l'autre, il faut juste comprendre comment on fonctionne et c'est là où c'est fascinant, l'être humain, il fonctionne différemment.
Ça, c'est un point super important, c'est la partie comprendre comment on fonctionne. Je reviens encore une fois sur la partie sessions psy que j'avais pu faire par le passé, que j'ai pu faire par le passé avec les bonnes concordances des temps. Et le sujet, en fait, c'est pas tant de se dire, c'est même pas tant, il y a aucun sujet de je suis malade ou je vais bien, etc. C'est moi la révélation sur la partie psy, ça a été d'avoir un mode d'emploi de moi de l'intérieur et de me dire, comme je disais tout à l'heure, les savoir comprendre ses peurs, savoir comprendre ses doutes, etc. Et ça, pour moi, ça a été un game changer de savoir identifier certains éléments. Quand il se passe ça à l'intérieur de moi, quand je suis tendu pour ça, etc., bon, ben, en fait, c'est un indicateur que quand il se passe d'autres trucs dans ma vie, eh ben, je sais que c'est un indicateur, au contraire, qu'il faut avancer. Et ce mode d'emploi, en fait, il est super important pour permettre de comprendre quand est-ce qu'il faut accélérer ou freiner, ou laisser un petit peu de place ou demander de l'aide.
Complètement.
C'est un vrai sujet, ça. C'est un sujet qu'on n'évoque pas assez de manière générale. On en parlera peut-être dans un autre épisode, mais savoir demander de l'aide, c'est juste super important. Et beaucoup de personnes, l'immense majorité des personnes, en fait, ne le font pas. C'est pas beaucoup de personnes, c'est l'immense majorité des personnes ne le font pas. Et ça va se traduire par des engueulades, ouais. La plupart du temps, des non-dits, en fait, qui restent là parce que, ou de vouloir faire l'intéressant, entre guillemets, pour prendre de la place, pour virtuellement lever la main et dire « Coucou, je suis là, regarde-moi ». Alors qu'en fait, il suffirait de dire « Mec, en ce moment, ça va pas fort. Est-ce qu'on peut aller boire un café ensemble ?» Et soit tu bois juste un café avec ton pote et c'est OK, soit tu as besoin de parler d'un truc en particulier et tu demandes à ton pote si tu peux lui en parler ou juste tu lui en parles et si c'est un vrai pote, il n'y a aucun sujet. Mais demander de l'aide, c'est aussi super important. Alors que ce soit un ami, quelqu'un de la famille ou un professionnel, hein, c'est des sujets. Il y a forcément un moment où on a besoin d'aide, en fait. Si l'inverse, je pense, tu te confirmeras
au moins,
mais le fait d'être suffisamment fort pour s'en sortir tout seul ou de ne jamais avoir besoin d'aide, je ne pense pas que ça existe trop.
Non.
On a forcément besoin à un moment d'aide de quelqu'un autour de nous pour avancer sur certains sujets.
Complètement. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la différence entre le pouvoir de la vulnérabilité / le sentiment d'infériorité. Quand tu sens que tu es inférieur et que tu es en difficulté, donc tu vas avoir une conscience émotionnelle, on y revient toujours, en te disant « c'est OK, je vais juste demander de l'aide ». Et donc, cette conscience-là va faire que tu vas t'orienter. C'est là où il y a la force du dev perso. Moi, j'adore ça. Aujourd'hui, si j'accompagne et je forme aussi ces coachs et mentors, c'est parce que je trouve que l'impact, il est génial. Ouh.
Oui,
pas mal.
Oui,
voilà. Youpla. Et par contre, je trouve que l'impact de ces personnes, c'est juste extraordinaire. Il y a beaucoup de pompes à roulettes, mais par contre, ça ne peut pas marcher différemment, quoi.
C'est un excellent point et je suis assez d'accord avec toi. Par contre, comment on fait pour choisir la personne avec qui on va partager, entre guillemets, ses doutes, ses peurs, ses envies, ses passions, ses volontés, ses ambitions? C'est beau, ça.
Waouh.
Ouais, c'est du live, hein.
Absolument.
C'est totalement du live. Comment est-ce que tu as des conseils pour choisir les bonnes personnes? Voilà, ça se résume comme ça.
Moi, je pars toujours du principe que tu vas choisir la personne qui incarne ce que tu voudrais réaliser en termes de coaching, de dev perso, parce que ça, c'est hyper précieux. Les gens qui sont un peu imposteurs, etc., il faut vraiment pouvoir les sniper rapidement. Donc, toujours demander de la preuve, toujours demander un petit peu, voilà, pour rentrer dans un travail de process. Il faut être très à l'aise avec sa propre valeur. Ça, c'est hyper important. Et surtout, pas être en mode ouin-ouin et attendre que quelqu'un vienne te sauver. C'est-à-dire que tu demandes de l'aide, c'est OK, mais tu n'es pas une victime. Ça veut dire que tu dois toujours avoir quand même ton pouvoir de décider, de pouvoir prendre des décisions et des actions dans ta vie. Donc, il ne faut pas toujours attendre tout de la personne qui vient t'aider. Ça, c'est très important.
J'avais lu un bouquin où le gars disait « Ne trouvez pas… » Alors, je ne me souviens plus du terme, je vais le mettre remplacé par « coach ».« Ne trouvez pas un coach, trouvez un pro ». Et j'avais bien aimé l'approche puisque le coach, il a une fonction, vocation un peu de te materner, de t'accompagner, de t'aider à monter la marche, de te prendre la main, en fait. Alors que le pro, il n'a pas le temps. Le pro, il a toute l'expérience du monde. Il a fait 100 fois ce que toi, tu veux essayer de faire une seule fois. Il peut te guider, mais il faut lui poser les questions et il faut surtout faire tes devoirs à la maison, en fait.
Exact.
Et donc, le côté professionnel versus coach versus professeur, entre guillemets, je trouve cette approche vachement intéressante. Et c'est un truc que j'ai souvent en tête quand je travaille avec des personnes qui sont des vrais professionnels, en fait, des personnes qui incarnent réellement leur métier, qui réellement ont réussi dans leur business. Et en fait, c'est très souvent des personnes qui n'ont pas le temps, des personnes qui font autre chose, pour qui le temps est très cher, en fait. Et donc, tu ne peux pas te permettre de poser 60 000 questions à ces personnes-là s'ils t'ont déjà répondu 60 000 fois à ces 60. On peut tromper 1000 fois, mais.
Personne, mais.
Et du coup. Ça remet totalement... Ça veut dire que le process, entre guillemets, n'est pas clair pour toi au début, si tu es obligé de poser plusieurs fois les mêmes questions, si tu ne fais pas ce travail de remise en question et d'alignement avec tes valeurs que tu viens d'évoquer, de ce que tu veux faire et de vision, c'est de suite assez compliqué d'avancer parce que tu ne sais pas où tu veux aller.
Ouais. C'est la différence entre ce que tu appelles pro, tu vois, aujourd'hui, on l'appelle dans le monde du dev perso, le mentor.
Totalement.
Et en fait, le pro... alors, le mentor, c'est celui qui aurait déjà réalisé ce que toi, tu veux faire. Donc lui, effectivement, il n'a pas de temps à perdre, son temps c'est de l'argent et surtout il ne va pas te répéter 20 000 fois. Donc il va falloir que tu lui poses des questions, il va te donner un process, il va venir te faire cheminer, mais globalement en fait, il va s'inspirer de ce qu'il a incarné lui. Là, c'est vraiment pour moi aujourd'hui la clé du succès en fait, quelqu'un qui réussit, qui a une bonne pédagogie et ça peut être des fois un peu touchy. Le coach, lui, en fait, tout le monde peut être coach aujourd'hui, mais tout le monde ne peut pas faire du coaching. J'ai souvent cette phrase, ça embrouille les gens. Mais en gros, être coach, c'est savoir juste, c'est l'art de poser des questions. Donc, tu peux acheter un livre 60 balles à la FNAC et dire, ça s'est passé comment à ce moment-là et quelle est la difficulté et pourquoi et ceci et cela. Pour autant, tu ne vas pas guider la personne. Tu vas juste l'aider à mettre de la lumière et de la conscience là-dedans. Donc, c'est important de différencier les deux. Et quand tu veux réaliser des objectifs, soit... t'as pas peur de passer à l'action, mais tu comprends pas où est le blocage, et là, il vaut mieux s'orienter vers un coach. Soit, en fait, t'as envie de gagner du temps, et ça coûte souvent, c'est un investissement financier plus important, mais c'est un gain de temps énorme. Et le temps, c'est la seule ressource que tu peux pas te payer ni te racheter.
Totalement.
C'est Bill Gates, tu vois. Donc, au final, le mentor va te faire gagner et du temps, mais il faut vraiment s'assurer de la preuve sociale, il faut vraiment s'assurer qu'il est réussi.
La partie gain de temps, elle est ultra importante sur de l'entrepreneuriat et même dans la vie de manière générale.
Ouais.
Une fois que tu as compris que d'autres personnes pouvaient te faire gagner du temps, je pense que tu as compris le truc le plus important de ta vie de manière générale. C'est OK, il y a des trucs sur lesquels moi j'aime bien aller chercher tout seul et comprendre parce que je suis très perfectionniste et je suis très curieux aussi. Et j'aime bien savoir ce qui se passe derrière, donc j'aime bien bricoler un petit peu. Mais il y a des fois où tu veux juste le résultat, entre guillemets, et pas itérer 60 fois. Tu vois, quand je refais le réseau ici et que je fais une vidéo où je montre, bon, ben voilà, j'ai fait mon VLAN, etc. Quand vous voyez la vidéo à la fin, il y a un ou deux tests rapidement. Moi, j'en ai fait peut-être 30 avant que ça marche. Mais ce qui me permet de devenir expert sur la techno, parce que j'ai testé à peu près, comme disait Edison, j'ai pas fait 1000 ampoules. J'ai pas eu un échec 1000 fois pour faire une ampoule. J'ai trouvé 1000 manières de ne pas faire une ampoule. Et c'est à peu près le même délire pour ce genre de truc. C'est qu'à chaque fois, tu t'achètes de l'expérience et que quand tu vas avoir ensuite une personne en face de toi qui va te dire « Ah, mais j'ai fait ça. Ah, mais OK, pas de problème. Mais ça vient de ce problème-là, ça. Mais comment tu sais ? Parce que je l'ai fait 60 fois et je me suis foiré 60 fois aussi. »
Exact.
Et en fait, le mentor, il est là pour ça, pour te donner un raccourci. Il te donne pas la solution. Il te dit « OK, là, ça a foiré parce que... » Ce sujet-là, il est super important. Si tu veux comprendre, c'est OK d'y passer du temps. Mais si tu veux gagner du temps et aller directement au résultat que tu as, toi, déjà visualisé, etc., c'est pas quelqu'un qui va faire à ta place le taf. C'est juste quelqu'un qui, quand tu vas lui dire « J'ai tous ces ingrédients et je veux aller à tel endroit et je veux que mon plat il ressemble à ça ou je veux manger ça à la fin, comment est-ce que j'y vais ?» Pas de problème, fais préchauffer ton four, thermostat 7, clac, 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 parce que si tu le mets à 8, il va se passer ça. Ah, je comprends pas, là, ça marche pas, ça accroche. Bon, voilà, des petites métaphores culinaires, ouais,
ça marche. Mais ça marche bien. Très, très bien, parce que tu vois, par exemple, là, on va reprendre un autre qui est un mec qu'on apprécie logiquement tous les deux, qui est Steve Jobs, qui expliquait pourquoi je vais te faire payer à l'heure alors qu'en fait, je vais te faire gagner 10 ans.
Totalement.
Et en fait, c'est exactement ce mindset-là et le rapport à l'échec qu'il faut travailler. Et ça, c'est la dernière clé. Le quatrième tips qui était lâché. C'est-à-dire que si tu fonctionnes sous forme de réussite-échec, bon, ben, franchement, ça va être beaucoup plus dur pour toi. La réussite et l'échec, c'est très subjectif. Moi, j'estime que je n'échoue pas.
Pareil.
Voilà, je n'échoue pas. Pendant très longtemps, je pensais que j'ai échoué, alors que ce n'est pas le cas. Je n'échoue pas. Par contre, je suis vraiment dans un process de comment je peux améliorer la fois d'après. Et de se dire qu'en fait, quand tu entreprends ou quand tu fais quelque chose, c'est un voyage et pas une destination, ça change tout dans ton mindset. Parce que du coup, tu n'es plus focalisé sur le résultat et l'attente, tu es focalisé sur le fait que tu vas devoir, à un moment donné, de toute façon, réévaluer, mais il faut que tu kiffes le process. Donc, le mentor, lui, va te dire, est-ce que tu es prêt à kiffer le process? Est-ce que tu es prêt à te planter pour repousser? Là où le coach, lui, va juste essayer de te faire comprendre pourquoi tu ne passes pas à l'action. Donc, le coach, il est vraiment dans, je ne fais que procrastiner, je me suis enraciné, je ne bouge pas. Et un bon coach, c'est censé te faire reprendre du mouvement et te faire comprendre pourquoi tu n'as pas bougé. Là où le mentor, lui, il va dire, attends, je ne suis pas là pour te materner, comme tu reprends l'exemple. Je suis là vraiment pour te dire, ok, moi, je ne suis pas là pour te dire, est-ce que oui ou non, tu as fait tes homework? En fait, moi, je suis là pour te dire, si tu fais ça et ça et ça, je l'ai testé, ça marche. Donc, tu le fais. Et peut-être que tu vas te planter sur un ou deux paramètres, mais ce n'est pas grave, on va le réévaluer. Et donc là, c'est là où c'est vraiment, vraiment très important de savoir ce que tu veux. Soit gagner du temps, soit gagner de l'argent. En général, c'est très vite prouvé. Quand tu veux économiser un peu d'argent, le temps et l'argent, de toute façon, c'est relié. Hein.
C'est très corrélé.
Les gens qui manquent de temps manquent souvent d'argent parce qu'ils ont vendu leur temps trop vite et pas assez cher. Et inversement, ce qu'on retrouve dans le salariat. Et donc, l'entrepreneur, lui, ce qu'il veut, l'argent, il comprend qu'en fait, ça va, ça vient, c'est une énergie, ça circule. Ce qu'il veut, c'est gagner du temps et optimiser son temps. On a tous ce rêve de liberté, de ne pas avoir un patron qui va nous faire chier du lundi au vendredi, qui va dire « Ah oui, à telle heure, vous êtes arrivé en retard, hein, monsieur ?» Bon, non, en fait, on s'en fout. Là, je suis mon propre responsable, voilà, c'est moi qui gère. Donc, mon temps, il m'appartient. Et là, le mentor, il va te faire gagner du temps. Et là, tu vas être libre.
Trop cool. On a fait un bon tour de beaucoup de choses. La gestion des émotions, l'incarnation du leadership, la vision, la gestion du temps qui est juste super importante et la partie mentor. C'est super bien d'avoir passé ce temps ensemble. Comment est-ce que tu nous fais un petit bilan de tout ce qu'on a vu là? La gestion des émotions, l'incarnation du leadership, la vision, c'était les trois points qu'on voulait aborder pour être un bon entrepreneur,
pas de bon ou de
mauvais chasseur, ça fait comme un délire.
C'est la question d'avoir en fait de la réussite, la question alors de la réussite plus largement en fait de kiffer sa vie. Moi, je parle du principe que tous les gens, les entrepreneurs qui me cherchent, qui viennent chercher des problèmes avec moi pour régler ces problèmes et ces fameux bugs, ce qu'ils veulent, c'est kiffer leur vie en fait. Et comment en fait tu peux reprendre du lead dans ta liberté d'être, dans ta liberté de faire, dans ta liberté d'avoir, ces trois libertés différentes. Être libre, ça veut juste rien dire si tu précises pas. Ben en fait, c'est plus tu te connais, plus tu vas pouvoir être solide, si je reprenais quelques inputs, et plus tu es solide, moins tu es perméable à la peur du jugement, à la peur de l'inconnu, à la peur de Jean-Michel U69 dans son canapé, et au truc comme ça. Donc, plus tu es solide, en fait, plus tu vas te driver. Et plus tu es en capacité de passer à l'action, plus tu vas pouvoir réaliser tes visions. Et une fois que tu arrives à ta vision, en fait, il y a une nouvelle vision qui va se déclencher parce que tu as enclenché. Il y a une vraie dopamine hein, quand on arrive
à ça n'arrête jamais.
Ça n'arrête jamais. Donc, effectivement, des fois, c'est le tourbillon. Tu te dis, mais en fait, je suis cramé de ça. Donc, effectivement, tu t'arrêtes au stand, tu es cramé. Tu dis, ouais, j'en ai marre, là. Puis, 5 minutes plus tard, tu dis, jamais je vends cette situation. Jamais je reviens en arrière. J'ai brûlé le pont, il n'existe plus, quoi. Donc, se comprendre, arriver à repérer ces zones de vulnérabilité pour en faire des forces en se faisant accompagner, en travaillant sur soi. Alors arrêter de lire des livres juste pour rester dans sa tête et rien tenter, ça c'est vraiment du bullshit. Lire des livres, s'inspirer de gens qui ont fait ce que j'ai envie de réaliser et écouter leurs conseils et pourquoi pas passer à l'action en monétisant ça et en disant voilà, je veux vraiment y aller, le mec il va m'amener. Mais en fait, c'est les trois axes qui vont te permettre de pouvoir te lancer et réussir, en fait, être beaucoup plus libre de kiffer, sans oublier le rapport à l'échec qui est complètement, en fait, c'est une chimère, l'échec.
Totalement. L'actionnabilité des choses, toujours tenter, je résumerai ça, moi, d'essayer, juste de tenter, d'arrêter de se prendre la tête avec ce que les autres peuvent en penser, même si on tente dans son coin. Tu vois, on a refait le design du site web la semaine dernière. Bon, ça, le temps passe tellement vite. On a refait le design du site web, locan.fr. Je vous encourage à aller jeter un petit œil. C'est absolument magnifique. Eh bien, un développeur web qui commence, il a un truc trop simple, c'est qu'il n'est pas obligé d'avoir un nom de domaine, il n'est pas obligé de mettre son site web en public, il peut très bien le faire tourner sur son ordinateur en local et il teste, voir ce que ça marche, ce que ça donne, est-ce que c'est pété, est-ce que c'est joli, est-ce que j'aime bien, et puis tu peux très bien le supprimer et te dire « Ok, ça j'ai creusé, j'aime bien, ben, c'est bon, j'ai fini, je passe à autre chose. » Et maintenant, je prends un nom de domaine et j'envoie et je fais un truc un petit peu plus couillu, etc. Donc, tester des choses, on revient aux anneaux sur notre petite Apple Watch, etc.
Ouais.
C'est toi tout seul comme un grand, de qu'est-ce que tu peux faire, de quoi tu es capable de faire et à quel point est-ce que tu peux te challenger pour sortir de ta grotte et sortir de ta zone de confort pour tester des nouvelles choses. Et encore une fois, avec de la bienveillance, c'est OK si des fois on n'y arrive pas. La question, c'est aussi ça, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à réussir. La remise en question instantanée, on n'en a pas parlé dans ce podcast, mais un truc qui est super important pour moi, très personnellement, dans mon quotidien, c'est la remise en question. On a un Patreon sur lequel chaque semaine, je fais un podcast XXL, etc. Et le début du podcast XXL est dédié à la manière dont j'ai passé ma semaine. Et chaque semaine, à chaque fois, j'organise ça comme un bilan agile, c'est-à-dire que je fais un bilan de ce que j'ai fait cette semaine, les difficultés que j'ai rencontrées, comment est-ce que j'ai corrigé les difficultés de la semaine passée cette semaine, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont continué et comment est-ce que je pense les solutionner la semaine prochaine. Et j'ai la prétention de penser, tu vois, c'est très dur à dire, donc je fais un effort avec toi devant,
fonce,
que ce podcast XXL est très inspirant et est vraiment ultra pédagogique et utile pour apprendre à juste à être honnête avec soi-même, à se fixer des objectifs atteignables et à se dépasser de semaine en semaine. Parce que ce qui compte, ce n'est pas de faire un truc extraordinaire, c'est les petites briques, en fait.
L'effet Kaizen.
Exactement.
En fait, la méthode Kaizen, pas par petit pas.
Un truc que je pourrais dire dans la vidéo de l'ultramarathon qu'on n'a pas encore commencé à faire, mais faire 85 bornes, c'est un truc de débile. J'aurais jamais pensé que je ferais un marathon, alors encore moins un ultramarathon. Mais comme je comprends
tout le monde,
j'ai commencé par faire 1 km en course à pied parce que je détestais la course à pied, parce que c'était chiant la course à pied. Et en fait, pendant le Covid, tu pouvais juste pas courir super loin. Il fallait courir 1 km à la ronde autour de chez toi. Donc, j'avais un petit tour de 1 km, puis de 2, puis de 3. Puis, oh putain, j'ai super mal à temps. On me laisse un petit jour de repos. Et puis, tu repars sur 2 bornes, etc.
Ah oui.
Et petit à petit. Et en fait, on a tous commencé. Donc, il faut être indulgent avec soi-même. Mais par contre, comme tu disais, il faut toujours rester en mouvement. Le mouvement, c'est super important.
L'inertie.
Il faut tenter, il faut avancer, il faut essayer des trucs. Lire des livres, c'est OK. Mais si tu fais que lire des livres et que tu n'en tires rien et que tu n'actionnes rien sur les bouquins que tu lis, ça ne sert à rien d'avoir lu ce livre, en fait.
Ouais.
Aussi simplement que ça.
Et puis, l'envie doit être plus forte que ta peur. Si tu n'as pas plus envie que peur, ne le fais pas, en fait. Ça veut dire que tu vas le faire en fonction d'un indicateur extérieur qui n'est pas bon. Ça doit partir de toi. Et si tu en as vraiment envie, tu le feras. Si tu as peur, mais que c'est plus grand que ton envie, bosse sur ça. Parce que si cette envie reste, c'est qu'il y a un truc à creuser. Mais si vraiment ta peur, elle est beaucoup plus grande que ton envie, arrête, passe à autre chose.
C'était beaucoup trop cool. Merci beaucoup, Déborah, pour
merci à toi.
Ce moment, comme me disait Valérie. et on va finir ce podcast sur cette touche absolument ridicule. Une fois, j'avais fait une vidéo en disant, comme disait François Hollande, et il y a des mecs rageux qui sont venus dans les commentaires.
Oh, Jean-Michel, reste à ta maison.
François Hollande, c'était Valérie Trierweiler.
Oh.
T'avais écrit ça. Ah ouais,
bon, pas pauvre.
Ce qu'on voulait dire, qu'est-ce qu'on en a, hein? Bon, au bout d'un moment.
Bon, mais oui. Mais oui, mais...
Merci beaucoup encore une fois, Déborah, pour ce moment. Merci à toutes et
merci
tous
à toi
de nous avoir écoutés. C'était vraiment cool. Et comme d'habitude, vous pouvez laisser des commentaires sur Spotify. Donc, n'hésitez pas à venir nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, déjà
carrément,
d'une, et à nous dire sur quoi est-ce que vous voudriez avancer, quels sont vos challenges du moment. Et en fonction de ce que vous direz, pourquoi pas adapter les épisodes suivants pour essayer d'avoir des trucs qui soient encore plus actionnables pour vous. Vous pouvez, dans tous les cas, me contacter par le formulaire de contact de locan.fr/contact, nous suivre sur nos réseaux respectifs. Je mettrai le lien Instagram et tout ce qui sera pertinent pour toi dans la description de cet épisode pour que vous puissiez voir ce que fait Déborah. Et on vous souhaite une excellente fin de journée.
Bah oui, une bonne journée. Merci beaucoup.
Allez, trop cool. Des bisous et à très vite. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.